Ce soir, j'aimerais vous proposer une réflexion sur l'éthique comme refuge. Et dans les enseignements du Bouddha, l'éthique n'est en aucune manière un devoir lourd ou une obligation. Quelque chose lié à une vague culpabilité où je serais redevable. La quête, c'est de savoir comment pouvoir nous engager dans une dimension éthique avec joie. Parce que simplement, lorsque nous savons être dans des qualités d'altruisme, d'ouverture, de lâcher prise, de générosité, il y a moins de souffrance. Pour les autres, mais aussi pour nous. Et c'est vrai que nous ne sommes pas beaucoup aidés par la société aujourd'hui. C'est assez pitoyable de voir comment tous nos systèmes d'assurance qui étaient censés être une entraide pour que les plus pauvres puissent avoir ça. C'est n'importe quoi. Comment il suffit d'avoir 400 000 francs pour avoir un loyer de 600 francs, puis quand on n'a pas de sous, on a un loyer de 1400 francs. Où est la logique, hein? Où est la logique? L'éthique, c'est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous et qui est lié à une responsabilité, à une compréhension en lien à notre responsabilité, en lien au karma. Et nous sommes pris dans ces... Nous sommes des êtres sociaux et nous sommes pris dans ces élans qui sont plus ou moins profondément aveugles. Le système capitaliste montre ses limites. L'industrialisation montre ses limites, le progrès montre ses limites. C'est passionnant, on verra où on va. C'est une création, on ne sait pas.
On ne sait plus trop.
Non, on ne sait pas. On ne sait absolument pas. C'est ce qu'on appelle le samsara. C'est cette roue qui continue à tourner sous la force de l'aveuglement. Et le seul endroit où nous pouvons retourner ce rouleau compresseur, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Le monde ne va jamais changer, mais nous pouvons changer le monde. Il y a toujours, chaque fois que je parle de l'éthique, l'image qui me vient, c'est dans un livre qui s'appelle « Dieu en enfer ». C'est pendant la dernière guerre des Hollandais qui sauvent des Juifs. Et puis, à un moment donné, c'est une famille chrétienne. Puis, à un moment donné, les deux sœurs, finalement, elles ont été arrêtées. Puis, elles arrivent à Buchenwald dans des conditions épouvantables de malnutrition, de saleté, et puis de haine, de la souffrance amène l'égoïsme. Et quand la nourriture arrive, toutes ces femmes se précipitent en se crêpant le chignon pour qui aura un petit truc à manger. Et puis ces deux femmes arrivent là, je ne sais pas bien comment c'est raconté, mais au bout d'une semaine, au lieu que quand la nourriture arrive, tout le monde se précipite en se crêpant le chignon, on entend « Mais non, vas-y, non, non, après toi, toi d'abord. » Et tout à coup, un endroit où c'était l'enfer devient le paradis, parce qu'il y a cet élan éthique. Et ça, c'est quelque chose qui nous est offert lorsque nous nous lions à ce qui est au-delà. Et personne ne sait comment nous serons si nous sommes mis dans des situations aussi extrêmes? Est-ce que je pourrais garder mon ancrage pour dire mes noms après? Vas-y d'abord. Ça nous rend humble, ce questionnement. Parce que on ne sait vraiment pas. Lorsque nous parlons d'éthique, il y a forcément, avec cet encouragement à faire le bien et à éviter de faire le mal, il y a cette importance de cultiver notre esprit de manière à ce que l'éthique ait cette qualité de liberté, de gratuité, de joie, plutôt que cette espèce de peur liée à ce devoir lourd, où je serais fautive d'une manière ou d'une autre. Et ça demande donc de savoir que le monde tel qu'il est aujourd'hui n'est pas ma vraie demeure, c'est juste là où j'ai été parachutée, Dieu sait pourquoi. Pourquoi aujourd'hui plutôt qu'il y a 1000 ans, plutôt que dans 1000 ans. Et que mon corps n'est pas ma vraie demeure. Ok, je suis dans celui-là. Et alors nous ne mettons pas tous nos œufs dans le panier du monde conditionné. Ça fait que nous voyons mieux ce monde sans espoir fou. Ça ne veut pas dire sans espérance, mais il y a un certain discernement. Et qu'en même temps, nous n'y appartenons pas. Si cette qualité de lien aux choses n'a pas ces deux dimensions de ça n'est pas ma vraie demeure et puis en même temps j'y suis engagée, s'il n'y a pas ça, alors forcément nous tombons dans ce qui est juste, ce qui est faux, les bons, les méchants. Nous oublions notre interconnexion, nous oublions que je pourrais être l'autre. Et à ce niveau, tout l'enseignement sur le karma est extrêmement utile. Non pas qu'il soit vrai ou faux, peu importe, mais il est très utile pour que je me souvienne que dans une autre vie, j'ai pu être un bourreau, j'ai pu être un sage, j'ai pu être ma mère ou mon père. Que c'est bien mystérieux, les conditions qui nous créent. Et nous ne sommes pas aidés parce que notre monde a un peu oublié tout ça. Il faut qu'il souffre un peu plus, peut-être. Je vous lis juste Sogyal Rinpoché, qui dit « Notre civilisation moderne est consacrée en grande partie au culte de l'illusion. Il n'existe aucune information générale sur la nature de l'esprit. Les écrivains, les intellectuels n'y font guère allusion. Les philosophes n'en parlent pas directement. La majorité des scientifiques nie même qu'elle puisse exister. Elle ne joue aucun rôle dans la culture populaire. Elle n'est pas mise en chanson. On n'en parle pas dans les pièces de théâtre. Elle ne figure pas au programme de la télévision. En fait, nous sommes éduqués dans la croyance que rien n'est réel au-delà de ce que nous percevons directement au moyen de nos sens ordinaires. Et ça, c'est une prison. Qui nous empêche de maintenir une qualité éthique parce que nous croyons trop au monde. Et il y a deux sortes de bonheur. Ce bonheur conditionné où nous cherchons notre confort, notre avantage, notre réussite, notre plaisir, notre confort. Et puis ce bonheur non conditionné qui est la présence maintenant, l'espace, le silence. Il y a beaucoup de souffrance lorsqu'il y a ce moi au centre ou ce nous au centre, que ce soit en termes de peur et de désespoir ou de vanité et de réussite. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de tension. Alors que dans le lâcher-prise, il y a une non-peur, une forme d'unification. Il n'y a plus besoin de protéger. Donc ça, c'est l'aspect que nous pratiquons en retraite, où nous cultivons notre esprit. Et puis, dans la vie ordinaire, nous allons complètement changer cette manière d'ouvrir à l'ombre pour vraiment, pour être ici et maintenant avec les choses telles qu'elles sont, pour faire le bien et éviter de faire le mal. Et ça, nous allons le faire parce que nous comprenons qu'en créant la souffrance, nous recréons du karma qu'il faut repurifier et que nous participons pleinement à notre propre souffrance. Et c'est un refuge, c'est un aspect essentiel du chemin d'avoir cette intention éthique qui s'approfondit. Parce que ça nous permet d'être plus heureux. Einstein disait plutôt qu'une personne qui a du succès vise à devenir une personne qui a de la valeur. Et tout d'abord, il y a l'acte juste, ce qu'on appelle l'acte juste. De protéger la vie, ne pas tuer ou sauver. L'autre jour, il y avait plein de mouches dans cette maison et puis l'aspirateur passait, il fallait enlever les mouches. Ah, on tuait des mouches. Alors, j'ai dit à Jean-Pierre, on fait une petite prière. Puis après, je me suis dit, ouais, mais quand même, j'en sauve beaucoup des vers de terre. Parce que quand il pleut, je sauve les vers de terre. Alors voilà, le karma, c'est comme ça. Il n'y a pas de... La vie n'est pas parfaite. Souvent, il faut choisir entre quelque chose qui n'est pas trop bien et quelque chose qui est encore pire. Mais protéger la vie consciemment, c'est important. Et c'est l'intention qui compte. Si l'intention est claire, le karma compte moins. C'est pas comme ça dans la justice. Hein. Plus on est inconscient, moins on est puni. Mais spirituellement, la conscience est importante. Donc, nous faisons attention à protéger la vie . Ça a aussi à voir avec cette préciosité de la vie humaine. Je sais que le seul endroit où je puisse éventuellement trouver cette vraie demeure qui est au-delà, c'est dans un corps humain. Et les Tibétains parlent de cette préciosité de la vie humaine, ils donnent une image. On a beaucoup de chance hein, d'être juste maintenant là. C'est comme si une tortue sortait sa tête de l'océan tous les 100 ans et que par hasard, elle tombe juste dans la bouée qui est posée à sa surface. Alors, bien profiter de cette vie. à protéger. Ne pas prendre ce qui n'est pas donné, ce qui ne m'appartient pas, ne pas voler. Ça questionne toujours l'importance de nos besoins. Là, je faisais un petit truc avec ma petite fille l'autre jour sur Internet par rapport à ce que je, à ma façon de vivre. Si tout le monde vivait comme moi, il faudrait 3 terres. Si tout le monde vivait comme ma fille, on voudrait 5. Ouais. Est-ce que c'est volé? Alors on fait au mieux, on met les catalyseurs à nos voitures, mais on les change tout le temps. On sait bien que là où ça pollue le moins, c'est quand on les garde. Mais on a tous vu les voitures qu'on a. Oh. Allez au Burkina Faso, regardez les voitures au Burkina Faso. Et ça questionne. Et nous essayons de faire notre part pour vivre simplement, ne pas avoir trop, être au moins dans la gratitude par rapport à ce que nous avons, pas vouloir toujours plus. Mais encore une fois, on est pris dans ce mouvement. Maintenant, tout est tellement complexe au niveau de la nourriture, au niveau de la médecine. Et ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, c'est aussi faire preuve de générosité. Savoir donner, le Bouddha parle d'un plat en verre sur lequel tout repose. Et encore une fois, c'est pas un devoir, c'est une joie que nous pouvons, c'est un droit que nous pouvons prendre. C'est un droit qui nous grandit et qui nous enrichit. En même temps, savoir se contenter de pas trop et puis savoir ouvrir. C'est Shakespeare qui disait « Être pauvre et satisfait, c'est être riche, et même très riche. » Et Gurdjieff qui disait « Tout ce que je donne m'appartient, tout ce que je garde est perdu à jamais. » Il n'y a qu'à voir le mouvement de l'avarice qui est vraiment souffrance et le mouvement de la générosité qui est vraiment joie. L'attachement à la matière, c'est un gros paquet parce que nous sommes attachés. Autrement, il n'y aurait pas de paquet. Et c'est difficile d'avoir peu, mais c'est difficile d'avoir beaucoup. Qu'est-ce que je fais quand j'ai beaucoup? C'est dukkha. C'est dukkha si j'ai peu, c'est dukkha si j'ai beaucoup. Parce que le problème n'est pas là, hein, au fond. Le problème, c'est qu'est-ce que je donne comme réponse? Est-ce que je sais que le monde est de toute manière imparfait? Et est-ce que je lâche et que je fais juste ma part? Au mieux. C'est intéressant de voir comment, quand nous avons des idéaux, des espoirs, et puis que tout d'un coup ils sont assouvis. On s'habitue, et puis je suis au même point de départ. Le problème se porte ailleurs. Il y a cette petite histoire du Bouddha qui, le 84e problème, c'est un paysan qui va vers le Bouddha, puis qui lui dit Ah ben vous êtes un grand maître, je pense que vous allez pouvoir m'aider parce que vous allez pouvoir m'aider à résoudre mes problèmes parce que j'ai vraiment beaucoup de problèmes dans la vie. Il y a ma dernière récolte qui n'était pas super et puis ma femme qui va pas très bien. Puis voilà que j'aurais voulu avoir deux fils mais il n'y en a qu'un. Et puis il se plaint et puis le Bouddha lui dit mais moi je peux absolument rien faire pour résoudre tes 83 problèmes. Et puis le paysan est très déçu, il lui dit, mais j'ai cru que vous étiez un grand maître, vous pourriez quand même m'amener un petit peu de soutien. Non, je peux rien faire. Ah bon. Je peux peut-être faire quelque chose pour le 84e problème. Alors là, il est intéressé, alors volontiers, alors volontiers, eh ben le 84e problème, c'est que tu ne veux pas avoir de problème. Protéger la terre, ne pas baisser les bras au niveau écologique, continuer à trier, prendre le temps de le faire comme un geste de gratitude et de connexion, donner du soin, y penser. Le problème, ça n'est pas la terre que nous polluons. C'est notre survie sur cette planète. Et tous ces actes éthiques, sont des droits. Ajahn Sumedho le disait de manière très, 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 très chouette. Il disait, mais vous avez juste le droit de ne pas tuer. Le droit de ne pas voler, le droit de protéger la terre ou de bien vous comporter au niveau de la sexualité, le droit à la parole sage. Alors, ça questionne parce que jusqu'où est-ce que je peux prendre ce droit? Justement, quand je suis menacée, quand tout d'un coup je suis à l'étroit, ben, j'arrive plus à prendre ce droit. Et je donne la réponse du berger à la bergère. La parole juste, le Bouddha en a parlé longuement parce que nous pouvons tuer avec nos mots. Nous tuons beaucoup avec nos mots. Et après la parole, il y a l'acte. Et il y a des choses à développer et des choses à éviter. Nous pouvons développer la sincérité et la droiture, l'authenticité, et éviter le mensonge, la manipulation. En essayant de voir pourquoi est-ce que je mens, quand est-ce que j'ai besoin de mentir, qu'est-ce que je protège. Je protège ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai envie de que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que c'est que le mensonge? Pourquoi est-ce que j'ai besoin des fois de prétendre ou d'exagérer? Et encore une fois, toujours voir, mais comment c'est? Qu'est-ce que ça me fait? Humblement. Il y a un autre aspect, c'est employer la parole pour créer la concorde entre les personnes, pour unifier, lier les uns aux autres, ou bien pour nous séparer les uns des autres. Et ça, c'est touchant d'un côté. Comment nous nous rassurons en étant d'accord avec quelqu'un contre quelqu'un d'autre? Ça manque d'amplitude, ça manque de compassion. et nous pouvons nous pardonner et tendre à faire mieux. Le ton de la voix est aussi une chose importante. Quelquefois, nous disons des choses tout à fait sympathiques, mais sur un ton qui l'est un peu moins. Et alors, qu'est-ce que nous écoutons ? Je me souviens, je raconte toujours la même histoire, mais enfin, tant pis pour ceux qui, l'ont déjà entendu. Quand j'étais enseignante spécialisée, et puis que mes élèves faisaient beaucoup de bruit, ou bien travaillaient pas, ou bien puis que je demandais, mais enfin, Mathieu, tu veux travailler, oui, ou tu veux pas travailler ? Mais bien sûr, je veux travailler ! Ouais, Mathieu, j'écoute quoi ? J'écoute ce que tu me dis, ou bien comment tu me le dis ? Et nous faisons ça quelquefois, surtout avec nos proches. Et d'apprendre à avoir une parole qui est amicale et tendre plutôt que dure et distante. C'est important. Et pour ça, nous ne pouvons que voir quand cette parole devient pointue. Et le dernier aspect lié à la parole, c'est ce qu'on appelle le papancha. Nous aimons tellement parler, raconter des histoires, passer le temps en se racontant ci et ça. Mais ce manque de maîtrise, c'est un peu comme de trop manger, de trop... C'est un manque de dignité, d'une certaine manière. De pouvoir employer la parole au service de quelque chose de plus grand que juste tout ce qui nous passe par la tête. D'aimer le silence, de respecter le silence. C'est quelque chose vers quoi nous pouvons tendre et qui fait du bien. On perd beaucoup d'énergie à parler à tort et à travers. Et ça manque un peu de retenue. C'est pour ça qu'en retraite, comme nous sommes complètement silencieux, nous ne créons aucun mal-être, aucun malaise par rapport à la parole. Et rien que ça, c'est profondément purificateur. Le Bouddha dit par rapport à la parole sage: abstenez-vous de dire quoi que ce soit de faux et de blessant. Abstenez-vous de dire quoi que ce soit de vrai et de blessant. Abstenez-vous de dire quoi que ce soit de faux et d'agréable. Et si vous voulez dire quelque chose de vrai et d'agréable, attendez le bon moment. Il y a l'éthique pour nous-mêmes et il y a l'éthique pour l'autre. Et évidemment, quand l'autre manque d'éthique, qu'est-ce que je fais ? Je juge. Je trouve qu'il devrait. Et ça n'est pas l'éthique, ça devient de la morale. Ça devient du... j'outrepasse mes droits, parce que le seul endroit où je peux imposer une éthique, c'est là. L'autre, je peux lui partager certaines choses, mais en aucun cas l'éthique ne peut valoir pour autrui. Et souvent nous confondons un peu les choses et nous jugeons l'être plutôt que l'acte que la personne fait. Je vais vous lire à ce niveau-là Gandhi qui dit: l'homme et ses actes sont deux choses distinctes. tandis qu'une bonne action devrait appeler l'approbation et une mauvaise action la désapprobation, celui qui agit, que ce soit avec bonté ou méchanceté, mérite toujours le respect ou la compassion, selon les cas. Déteste le péché, mais pas le pécheur. C'est un précepte qui est facile à comprendre, mais qui est rarement pratiqué. Et pour cette raison, le poison de la haine se répand dans le monde. La non-violence est la base de la quête de vérité. Je réalise chaque jour que la quête est vaine, à moins qu'elle ne soit fondée sur la non-violence. C'est tout à fait juste de résister et d'attaquer un système. Mais de résister et d'attaquer son auteur, c'est équivalent à s'attaquer à soi-même. Car nous sommes tous faits du même bois, et nous sommes tous en fond d'un même créateur. Et ainsi les pouvoirs divins en nous-mêmes sont infinis. Offenser un être humain, c'est offenser les pouvoirs divins. Et ainsi je blesse non seulement cet être humain, mais avec lui le monde entier. Voir le cœur de l'être sous l'apparence. Et ça a aussi à voir avec tout ce sens de l'injustice ou de la justice. La quête de la justice, c'est pas juste. Ah ben non, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. C'est pour ça que nous ne pouvons que prendre notre place avec qui nous sommes déjà. Et que nous n'avons pas à demander aux autres de nous donner une place quelconque. Nous pouvons simplement être là et faire notre part. Je le redis toujours, mais c'est tellement la seule chose possible. Je vous lis encore une parole que je ne sais pas de qui c'est. Je pense que j'ai pris ça. Parfois, les gens me demandent « Mais qu'en est-il du chagrin légitime que nous pouvons éprouver devant les relations abusives, l'injustice sociale ou l'oppression politique ?» Certainement, il y a des dommages légitimes et des injustices qui requièrent notre attention et notre action. Pourtant, si nous le faisons sur la base d'un jugement, insistant sur notre vertu ou celle d'un autre, et condamnant le mal chez ceux qui nous font du tort, il est peu probable que nous puissions agir d'une manière constructive qui mène à une paix vraie et à une justice accomplie. L'éthique comme refuge, c'est le refuge dans le sangha. Je sais que je peux compter sur un soutien de l'autre. Et l'autre est un soutien parce qu'il est un réel soutien, c'est un vrai ami spirituel, mais il est aussi un soutien quand il me met à l'étroit, parce que c'est là que je peux chercher le vrai refuge à l'intérieur pour avoir une réponse adéquate. Et l'autre me fait grandir par ses limites. Nous faisons grandir les uns les autres par nos limites. Le maître, c'est l'autre. Et c'est ça le refuge dans le sangha. Bien sûr, il y a ce refuge dans tout ce qui est nourriture spirituelle. Mais il y a aussi ce refuge dans tout ce qui est frottement. ça frotte. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux laisser le frottement, sentir le frottement, et puis être tranquille? Un pied dans le monde ultime, je vois, je contemple, et un pied dans le monde conditionné, je ne prétends pas. Ah ouais, ça frotte vraiment. Fouf, oh, moi je ne fais pas comme ça. Hein. Ben, il fait tout faux. Eh, tu te la coince. Laisse-lui son problème, regarde. Tranquille. Cet horizontal est donc une grande richesse pour grandir. Parce qu'elle permet de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur de ne pas être apprécié, d'être rejeté, d'être, de manquer. Pas avoir peur de se sentir nul. Je me sens nulle, mais où est le problème? Oh, je me sens vraiment nulle. Oh, mais plus nulle, tu meurs. Hein? Ah, tout va bien. Hein? Tout va bien. Il y a un film très beau qui s'appelle Un homme de parole. Qui c'est qui l'a vu? C'est le pape, sur le pape. Personne. Ah, magnifique. Hein? Eh bien, le pape, je peux vous dire qu'il n'a pas peur. Hein? Il est ancré, cet homme-là. Il est magnifique dans sa manière d'être. Allez voir ce film. Le pape. Mais c'est pas le pape, c'est un homme de parole. Parce que pour pouvoir vraiment être dans l'éthique, je crois qu'on n'a pas le choix, il faut oser mourir. Il ne faut plus avoir peur de la mort. Donc pouvoir tout donner. Quand Jésus dit... Qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Dans notre monde, c'est celui qui est à table. Et moi, au milieu de vous, je suis celui qui sert. Je me mets au service plutôt que d'être dans cette avidité perpétuelle de ce que le monde peut me donner. Donc, qu'est-ce que le monde veut de moi? C'est autre chose. Ça détend. Ah, je crois que j'ai envie de vous lire quelque chose. C'est une parole de vie, c'est un poème de Victor Hugo, ça n'a rien à voir. Enfin, ça a beaucoup à voir, parce que au fond, c'est le karma à la mode occidentale. Nous ne pouvons pas nous libérer de l'acte négatif, si ce n'est en l'acceptant et en le purifiant, en faisant notre part de reconnaissance. Et Victor Hugo, il a écrit ce poème merveilleux sur la conscience. Alors, je vais vous le lire parce que moi je l'adore. Mais je... Voilà. Il est très long. Courage. Mais quand même, Victor Hugo, il est génial. Hein? Oh, au niveau de la parole, je vous le mettrai en bas après parce que je ne vais pas le dire très bien. Ça s'appelle La conscience. Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons. » Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, » dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis Assur. « Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi, cria-t-il. » Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche. Caïn dit à Jabel, « Père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étends de ce côté la toile de la tente. » Et l'on développa la muraille flottante. Et quand on l'eut fixée avec des poids de plomb, « Vous ne voyez rien, dit Silla, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. » Et Caïn répondit, « Je vois cet œil encore. » Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans les clairons et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière. » Et il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et Caïn dit, « Cet œil me regarde toujours. » Hénoc dit, « Il faut faire une enceinte de tours, si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle. Bâtissons une ville et nous la fermerons. » Alors Tubal-Caïn, le père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Et pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente au mur de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Ils donnèrent au mur l'épaisseur des montagnes. Sur la porte, on grava « Défense à Dieu d'entrer ». Quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre. Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père, l'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant Silla. Et Caïn répondit, « Non, il est toujours là. » Alors il dit, « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse, et Caïn dit, « C'est bien. » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre, et quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Eh oui, on rigole, hein, mais c'est comme ça. De cause à effet. On ne peut pas échapper. Mais on peut purifier. Et on est là pour ça. Mais ça demande une certaine humilité et l'acceptation de voir. Oui, je veux bien voir. Et le pardon, c'est quelque chose qui est important dans toute cette quête éthique, parce que nous n'allons jamais vraiment pouvoir bien faire. C'est ces lois du monde où nous nous rencontrons dans nos limites. Je vous lis encore quelque chose. Comprends bien ceci. Lorsque tu juges ou blâmes quelqu'un, c'est toi que tu emprisonnes. Tu avances dans la vie, le corps rempli de peur et de haine. Et lorsque tu rencontres tes frères et sœurs humains, tes jugements mettent des barrières entre vous. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour eux. Sache te défendre contre l'ennemi s'il le faut, mais ne juge ou ne blâme jamais qui que ce soit. C'est ce que les sages appellent le pardon. Certains humains n'auront jamais conscience du mal qu'ils font aux autres. Le pardon et l'acceptation servent à te libérer, toi d'abord et avant tout. Si tu n'accordes pas ce respect en premier, personne ne le fera. Il y a dukkha, première vérité que nous avons à comprendre. Et il y a tanha, cette soif d'avoir, de garder ou d'échapper, qui est la cause de nos souffrances. Et la libération, c'est ce refuge dont la présence dans la sagesse et dans l'éthique. Un refuge ailleurs que dans les lois du monde. Et d'une certaine manière, il y a urgence à développer cette conscience-là. Avoir la détermination, pas seulement une aspiration un peu molle, mais vraiment je veux. C'est ce qu'on appelle chanda, c'est une autre volonté, c'est une volonté sage, et je peux la mettre en mouvement de manière puissante. Je veux la libération. Là, n'hésitez pas à avoir un très grand désir et une monstre soif avant de la lâcher pour la lâcher quand même. Ok, je vous propose qu'on prenne un moment en silence.